Bien, bonjour à tous, ou rebonjour à tous. Je vous propose de reprendre la deuxième partie de cette journée d'études. Nous aurons dans un premier temps une intervention donc, de Thierry Viéville sur la robotique à l'école. Et puis nous donnerons la parole dans la foulée à des collègues qui viendront nous présenter le projet Robodéviant. Nous ferons à ce moment-là, après les deux interventions, une série de questions-réponses, et puis nous enchaînerons sur les interventions de Pierre Tchounikin, professeur d'informatique à l'Université de Grenoble, sur la programmation à l'école, et Gilles Roisin sera l'alter ego qui présentera une action au niveau de l'apprentissage en CM1, CM2, dans l'académie de Strasbourg. Voilà, toujours ce souci d'alterner effectivement des interventions de chercheurs et de praticiens scolaires. C'est à toi Thierry. Tu as donc, on m'a donné des temps, mais je n'ai pas pris le bon papier, donc c'est pas grave, tu as jusqu'à...
44 minutes.
Oui, c'est ça. Voilà. Ça marche.
Alors, vous le savez, je suis un chercheur en informatique, hein, on gagne sa vie comme on peut. Et la commande qui m'a été passée, c'est d'essayer d'expliquer l'apprentissage des machines, mais au sens où comment qu'un robot ou un ordinateur, il peut apprendre quelque chose. Et je trouve que c'est une question essentielle, parce qu'effectivement, je crois qu'on a toutes et tous besoin de piger cette espèce de truc qu'on appelle improprement, si tu me permets la provocation, intelligence artificielle. Et moi, la seule chose que je peux faire, c'est de témoigner de la façon dont j'explique ça quand on me demande d'intervenir devant des enfants. Donc la question, c'est est-ce que vous voulez bien avoir une dizaine d'années de façon à ce que je vous explique comment j'explique, puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors quand on me demande d'expliquer ça, ce que je fais, c'est que je prends une grenouille et je fais passer une mouche devant cette grenouille. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une grenouille imaginaire, hein. C'est normal que vous ne la voyez pas. Ah merci, tu me sors d'un petit moment de solitude. Oui, Egob, et ça c'est complètement stupéfiant, parce que la mouche elle est plus rapide que la grenouille. Donc elle gobe pas la mouche là où elle la voit, elle gobe là où la mouche sera à la fin du saut de la grenouille. Donc dans son cerveau de grenouille, il y a la détection du mouvement de la mouche, il y a la prédiction du mouvement de la mouche, il y a le calcul de son propre mouvement de grenouille. Ne retweet pas, s'il te plaît. Et puis, il y a la grenouille qui saute, là où la mouche n'est pas encore, pour l'attraper. Bon, vous pigez ça ? Et bien, le plus intéressant, c'est que je ramasse un petit caillou qui a la même taille que la mouche et que je le jette devant la grenouille. Qui pense que la mouche gobe ? Ouais, merci. C'est pour voir si vous suiviez. Je sais, ça marche jamais. Bon, hey. Et bien figurez-vous, et techniquement c'est vrai accessoirement, que la grenouille gobe le caillou avec le même entrain que si c'était une mouche. Donc théorème, la grenouille, bien que capable de gober une mouche plus rapide qu'elle, est très con. Et bien un ordinateur c'est pareil. Si vous voulez retenir ou transmettre une seule chose, tiens je me débarrasse de la grenouille, une seule chose de ce partage, c'est le fait qu'il faut absolument démystifier l'idée qu'une machine est intelligente. Hein, Gérard Berry, un académicien, disait justement qu'un ordinateur, c'est très con. Alors, entre adultes, je vais vous balancer plein de chiffres. Vous avez là quelques éléments qui différencient le cerveau d'un robot. Donc, d'abord, il y a une notion de complexité. C'est-à-dire que un cerveau humain, c'est 100 milliards de neurones. Chaque neurone est connecté par 10 000 synapses. On se souvient un peu ce que c'est que ces trucs-là. Et chaque synapse, ça balance des neuropeptides qui eux-mêmes contiennent des kilobits d'informations. Donc en fait, un cerveau brut, c'est aussi complexe que tous les ordinateurs du monde. Et puis, une deuxième différence, c'est la façon de calculer. Votre super extension corporelle, ça a une dizaine de processeurs max, et encore, il faut s'énerver. Un cerveau, c'est 100 milliards de neurones qui travaillent complètement en parallèle. Vous le voyez, il y a aussi un problème de vitesse. Ce truc-là, ça fait 10 milliards d'opérations par seconde. Bon, 1 milliard d'opérations cons, ça reste con. Hein. Mais par contre, là-bas, dans le cerveau, il se passe autre chose. C'est 1 à 100 fois par seconde, si vraiment le neurone est énervé, qui transmet de l'information. Et pareil pour le codage ou pour l'exactitude, vous êtes vraiment devant deux machines complètement différentes. Alors, pourquoi expliquer ça aux jeunes? Bah, déjà, il y a une première idée, c'est qu'on les sort de la machine. C'est-à-dire que pour leur faire réfléchir à l'intelligence d'une machine, on prend la grenouille pour les obliger à sortir du fantasme de l'intelligence artificielle. C'est le fantasme du golem ou de Pinocchio. Hein, c'est une marionnette. Le monsieur qui a construit la marionnette est un vieux monsieur à la virilité quelque peu décadente. Et bon, je vous passe la vanne qui va avec. Et évidemment, il y a une fée qui se pointe et pouf, ça prend vie. Si vous êtes d'une autre tradition, ce sera le golem de terre qui va devenir votre esclave, qui va travailler pour vous, le robot. Et ça, c'est clairement des fantasmes qui nous habitent, que les médias adorent utiliser, et qui vont juste faire tout, sauf permettre aux mômes de piger. L'ordinateur ne fait exactement que ce qu'on lui dit de faire, même s'il fait des trucs imprévisibles, parce qu'on lui a dit n'importe quoi. Ok ? Ça vous va que je partage ça avec vous ? Alors, je vais maintenant changer de décor et je voudrais essayer de vous dire comment je fais au moment où on nous dit « explique-moi le big data », que je ne connais pas bien d'ailleurs. Alors pour ça, ben, je vais reprendre un cerveau et je vais faire une expérience. Donc si Alain, tu veux bien, tu te mets au premier... Non, bouge pas, ça suffit, c'est une expérience imaginaire. En fait, on va te présenter des images, tu vois, il y a certaines avec des animaux et d'autres sans animaux. Et tu as une manette devant toi, oui ou non. Alors tu vas être un peu moins rapide que l'autre sujet, mais c'est parce que tu es humain. Et chaque fois que je te présente une image, tu appuies sur oui ou non, tu vois qu'il y a un animal. Vous pigez ça? Il y a un mais. Le mais, c'est que je vais lui présenter l'image pendant plac, 1/100 de seconde, 10 millisecondes, c'est juste assez pour que sa rétine imprime l'information. Et là, lui, en tant qu'humain, il va me répondre bof. Bon, il est là pour gagner de la thune, je lui fais 1000 images à toute allure, question à 10 balles. Ou moins, je ne sais pas, Alain part avec combien d'euros? Si je lui présente 1000 images vachement vite, il appuie oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. À votre avis? Alors, voilà, il y a des mômes qui répondent zéro. Voilà, super. C'est exactement les réponses qu'on obtient devant les jeunes. C'est-à-dire, il y a un jeune qui va répondre zéro, parce que le cerveau sépare, ensuite il va dire, ah ouais, mais il ne peut pas se tromper tout le temps quand même, il faut le faire exprès. Et donc, il va donner la bonne réponse, qui est 500, 1 sur 2. Et bien évidemment, vous vous doutez que si je vous emmerde avec ça, c'est que ce n'est pas non plus la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'Alain va se barrer avec 999 euros. C'est-à-dire que son cerveau est beaucoup plus rapide que lui. D'ailleurs, si on pouvait ouvrir le cerveau d'Alain... Malheureusement, on m'a donné que 3/4 d'heure. On verrait ce truc-là. Tu crois que je peux aller sur l'écran, là?
Oui.
On verrait ce truc-là, c'est-à-dire que on verrait l'information rentrer au bout de 10 millisecondes. Là, c'est un relais qui commence à trier un petit peu les parties utiles ou pas de l'image. Il y a un détecteur de contour. Et arrivé dans cette partie-là du cerveau, donc vous voyez, moi, c'est ici, enfin, c'est dans l'inférieur temporal, il a vraiment des neurones animaux, des neurones bananes, des neurones grand-mère, qui vont détecter l'information. Bon, il n'y en a pas qu'un, évidemment. Mais il y a cette zone-là. Et alors, pourquoi c'est intéressant de vous raconter ça? Parce qu'en 100 millisecondes, il appuie en extrêmement vite. Vous voyez les chiffres, hein, en moins d'une seconde. Il n'a pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que son cerveau n'a pas le temps de faire appel à toutes ces belles fonctions cognitives qu'on arrive à peine à comprendre aujourd'hui. Il a juste le temps de faire un réflexe, en quelque sorte, mais un réflexe qui passe par son cortex. Et là, c'est quand même marrant. Il reconnaît. Les animaux, enfin non pas toi, ton cerveau les reconnaît. Alors, il y a des explications. D'abord, il y a une explication sur l'évolution des espèces, la phylogénèse, pour parler compliqué. C'est qu'effectivement, du temps où on était lapin, il y avait quand même deux catégories de lapins. Il y avait celui qui croyait voir un arbre dans les fourrés qui se barrait. Donc 9 fois sur 10, c'était le vent dans les feuilles. Donc là-bas, il y avait un lapin con, mais vivant. Et puis, il y avait le lapin intello qui aller vérifier s'il y avait vraiment un renard dans le fourré. Il se trouve que les choses sont que nous sommes plutôt issus des lapins cons que des lapins intelligents. Ok ? Alors là encore, on est en train de préparer le jeune à qui on explique ça à réaliser que l'on peut faire des algorithmes extrêmement sophistiqués avec des fonctions cognitives, sans pour cela se mettre à raisonner au sens humain du terme. Et au moment où on lui explique, on lui fait les maths, en fait, on lui montre ça, la partie basse ou la partie haute, vous en foutez, et on lui dit, bah, tu vois, c'est simple, si tu voulais, par exemple, reconnaître les filles des garçons, tu pourrais prendre deux dimensions, si j'ai le droit de le dire. L'axe horizontal, c'est par exemple la longueur des cheveux. Donc pour vous distinguer tous les deux, ça marche bien. Homme-femme, mais moi j'ai les cheveux longs, donc ça marche pas. Et puis il y a la barbe, effectivement, la pilosité, si vous voulez bien ne plus vous raser quelques jours, les mecs. La pilosité est un bon moyen de séparer les hommes et les femmes. À part ma belle-mère, c'est le moment de faire une blague facile et qui marche bien. Et on s'aperçoit effectivement qu'on peut distinguer avec les bons critères, les hommes des femmes, avec juste deux dimensions. Eh bien, c'est comme ça que ça marche sur Facebook. Vous savez que sur Facebook, on reconnaît les schizophrènes. Alors bien sûr, il n'y a pas des mecs qui sont mis à raisonner, genre, il a plusieurs profils Facebook, donc non. Le problème de Facebook, c'est que vous avez offert toutes vos données, bien sûr, mais vous avez offert énormément de données, le nombre d'amis, les images, l'historique de ce que vous avez fait, etc. Donc c'est un gigantesque vecteur, s'il y a le droit de dire vecteur, c'est un gigantesque machin avec plein de paramètres, donc il n'y en a pas deux, il y en a beaucoup. Et puis il y a des zones dans ce grand espace plein de dimensions. Alors dans mon exemple idiot, ben, il y a les garçons, les filles et puis les martiens peut-être. Et dans l'exemple des schizophrènes, il y a effectivement des zones de données, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais dans lequel il y a effectivement les schizophrènes ou pas. Et ça marche vraiment bien. On se passe régulièrement la référence et ça pose un petit problème sociétal, puisque moi j'ai vraiment un super médecin de famille, mais comme il a vu que trois schizophrènes dans toute sa vie, il a moins de chances de détecter ma schizophrénie naissante que si jamais on analyse mon profil Facebook. Enfin, si je m'en sers pas. Et donc, vous voyez que vous êtes là devant quelque chose qui est totalement aveugle et qui trie les données, finalement, sur un seul critère géométrique. Chaque point, c'est plein de données. On le met dans un espace, on coupe en deux. Pour les exemples que j'ai donnés. Et on fabrique de la reconnaissance sans intelligence. Et après, on se pose une petite question, c'est est-ce qu'on confie à ces algorithmes des décisions humaines ou est-ce qu'on se contente de les consulter? Voilà, c'est le deuxième exemple que je voulais donner. Qui permet d'expliquer, je ne sais pas si c'est assez clair, qui permet d'expliquer, et je n'ai comme expérience que le fait qu'on le refait quelques dizaines de fois par an, effectivement, à la sortie, quand les jeunes nous re-questionnent, ils se mettent à nous questionner sur le contenu et pas sur les fantasmes du big data ou du deep learning, des choses comme ça. Ok ? Ça vous va encore ? Sur la géographie du cerveau, je fais une parenthèse qui n'est pas sur l'apprentissage. C'est intéressant, vous avez vu, notre cerveau a une histoire, hein, puisqu'on a à peu près le même cerveau que du temps où on était un mammifère dit inférieur. Le cerveau a une géographie, ça aussi c'est très marrant. Vous avez ici la zone visuelle, je vous les ai décrits très rapidement. Et donc dans ces conférences, on fait un petit détour pour démystifier autre chose, qui est le fait qu'on peut faire des bioprothèses. Donc dans votre cerveau, vous avez une zone motrice, c'est une zone sensorielle, et donc si jamais je pouvais planter une électrode, mais j'ai déjà sollicité Alain, une électrode sur les différentes zones motrices, à ce moment-là, il y aurait son, ici, hein, c'est croisé, il y aurait son bras ou sa jambe qui bouge. Pareil pour les zones sensorielles, si bien sûr vous faites la conférence au collège, vous avez un commentaire à faire sur toutes les zones du corps humain sont représentées là, en moteur et en sensoriel. Et le fait de connaître cette géographie a une conséquence évidemment très importante. C'est que si jamais je sors mon bras pour tendre la main vers cette bouteille, bien que ce soit une bouteille d'eau, eh bien si vous plantez suffisamment d'électrodes dans mon cortex, vous allez pouvoir suivre le mouvement de mon bras. Vous comprenez cette idée? Eh bien maintenant, imaginez que par malheur, mon bras ne soit plus là ou qu'il ne fonctionne plus, que je tente de sortir mon bras, tendre la main pour attraper cette bouteille d'eau. Eh bien si vous plantiez suffisamment d'électrodes dans mon cerveau, vous pourriez juste aller connecter ça à un bras de robot, qui va apprendre bêtement, hein, on a vu à l'exemple précédent, jusqu'à pouvoir reproduire le geste. C'est très intéressant de donner cet exemple, parce que là encore, on est dans la démystification. D'abord, c'est un peu waouh quand même, de mettre une prothèse. Et puis, c'est le moment de montrer que ce n'est pas magique. C'est-à-dire que si le cerveau était organisé autrement, à la mémoire de nos ordinateurs, il n'y a pas de géographie. Hein. Tu ne sais pas dans la mémoire, j'ose plus dire disque dur, tu ne sais pas dans la mémoire où est l'information. Dans le cerveau aussi, ça s'est fait géographique. D'ailleurs, un spécialiste de la géographie sera enchanté dans le monde. Et donc là, c'est possible. À cause de ça, c'est pas magique. Ce qui est magique, c'est que le système, évidemment, arrive à se calibrer. Là, vous avez la prothèse d'une soldate états-unienne. Quand elle a été prothésée, les premiers gestes, évidemment, complètement erratiques. Et c'est parce qu'on ne peut pas connecter, genre, je suis le nerf de l'index, c'est pas écrit dessus, hein, donc tu connectes comme tu peux. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au bout de 10 jours, elle ne jouait pas vraiment au ping-pong, mais elle vivait sa vie quotidienne. Ensuite, on fait prendre conscience que tu dis pas bras sort de la poche, sort du. Oui, sort ma main de la poche, je vais y arriver. Alors, c'est que t'es vraiment bourré. Tu sors le bras, un bar. D'accord ? Et puis, c'est le moment aussi de faire réfléchir. C'est-à-dire qu'un des grands exemples de prothèse bionique, c'est quand même un mec qui a dit « Retire-la moi ». Elle marchait très bien, la prothèse. « Je préfère être un handicapé qu'un monstre ». C'est aussi le moment de faire réfléchir les mômes sur un autre aspect qui est « Tu as l'air vraiment bien. Si je faisais un bras de fer avec toi, je pense que je perdrais. » Parce que tu as l'air musclé, et ben, dans ces cas-là, j'ai juste à me faire enlever le bras, remplacé par un bras bionique, et je vais gagner. Et donc, jusqu'où on peut se permettre de faire ça, c'est aussi un moyen de dénoncer les excès qu'il peut y avoir sur ces sujets. Ok ? C'était ma parenthèse, je reviens vraiment à l'apprentissage. Si vous n'êtes pas trop fatigué, je voudrais vous montrer un autre algo, qui est complètement marrant, et qui permet de résoudre des tas de problèmes, évidemment, de manière très con. Il s'agit là de planifier. Il s'agit pour ce petit rongeur de sortir d'un labyrinthe. Je vous passe les images d'en dessous. Et j'aimerais résoudre le problème suivant. C'est je suis ici. Ce que je veux, c'est m'échapper, sortir de la pièce. Et pour ça, il faut que je fabrique quelque chose. Mais je n'ai même pas le droit à un algorithme du genre je longe les murs et si jamais je tourne à gauche. Non, non, non. Tu n'as droit à rien. Que du calcul pur et dur. Mais la solution est très simple. On va, vous savez, à la sortie, on va mettre un point au niveau zéro, au niveau du sol. Vous et les chaises, vous êtes des obstacles. On va dire que vous êtes au niveau 1 ou beaucoup. D'accord ? Et après, vous savez ce que je fais ? Je vais jeter un drap sur vous. Vous voyez ce qui va se passer si je jette un drap ? Le drap va être en hauteur, comme un peu ici sur la photo. Le drap va être en hauteur, là où il y a des obstacles, donc sur vos têtes. Et bien sûr, il va être en bas, à la porte, puisque j'ai choisi de mettre la porte au niveau zéro. Les petits physiciens de service vont penser que je suis en train de parler d'un potentiel, au sens de potentiel électrique. Mais bon, on entre jambes. Alors, ouais, j'aime assez casser les physiciens. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une petite bille et on va la laisser rouler sur le drap. Les matheux de service, ils ont compris. Je pars d'un point, je calcule le gradient, c'est-à-dire je regarde dans quel sens il y a de la pente et j'avance un tout petit peu. Eh bien, en faisant ça, petit à petit, je vais trouver la sortie. S'il n'y a pas de pli au drap, c'est-à-dire s'il n'y a pas de recoin pour les matheux, s'il n'y a pas de minimum locaux. Et si jamais je peux lisser mon drap, c'est-à-dire si vous me filez un fer à repasser, qui enlève tous les plis du drap, il n'y aura pas de pli, il y aura juste un endroit qui est la sortie. Donc ce fer à repasser existe en maths, ça s'appelle un laplacien, enfin, qui vaut zéro en potentiel harmonique. Là, c'est juste au cas où il y a un matheux dans la salle. Mais entre nous, c'est très simple, hein. On prend un point, on est entre informaticiens, on est entre gens bien, on prend un point et on fait la moyenne, excuse-moi, on fait la moyenne de ce qu'il y a autour, oui je parle trop près du micro, on fait la moyenne de ce qu'il y a autour, et petit à petit, ça supprime les plis. Hein. Vous avez un endroit avec un pli, vous prenez un point, vous faites ça avec en faisant la moyenne, vous supprimez tous les plis. Et pourquoi c'est un algorithme un peu intéressant ? Parce que vous avez résolu un problème de raisonnement, par où que je passe, juste un calcul local. Puis vous êtes super content parce que vous avez résolu un problème global qui est la vache, où est la sortie, quelle que soit la configuration du labyrinthe, en résolvant plein de petits problèmes locaux. Ah oui, non, là tu vas m'assassiner. En résolvant plein de petits problèmes locaux. Ok ? C'est le deuxième exemple que je voulais vous offrir parce qu'il vous donne un exemple où on résout des problèmes soi-disant de raisonnement, de planification, tout ce que vous voulez. Parce que là, je vous donne un exemple 2D, sortir d'une pièce. Mais ça peut être un problème plus compliqué avec un bras avec plein de degrés de liberté. Ça peut être se sortir d'une situation humaine que vous avez paramétrée avec tous les paramètres que vous voulez. D'accord ? Ça peut être emmener votre profil Facebook d'un point à un autre, en évitant tous les obstacles qu'il y a sur Facebook. C'est une pure métaphore, mais il se trouve qu'elle est mathématiquement valide dans ce cas-là. Alors voilà, c'était mes deux algos. Vous envoyez des conséquences, vous notez qu'évidemment, ce n'est pas comme ça que marche le GPS. Hein. Le GPS marche sur un graphe avec des points et des billes, mais c'est comme ça qu'on règle un certain nombre de problèmes de robotique, puisque j'étais censé parler de robotique. C'est des algos qu'on arrive à partager à partir du collège. Et c'est des algos qui sont marrants en soi, qui sont vachement utiles. Hein. Vous en avez partout. Vous avez vu que les chirurgiens s'en servent pour éviter de massacrer à l'intérieur d'un corps. Maintenant, je voudrais en profiter pour voir en quoi, au-delà de ces deux algos, comme c'est écrit dessus, on crée une rupture. C'est-à-dire, quelle est la rupture numérique qui fait qu'aujourd'hui, on peut fabriquer ces mécanismes soi-disant d'apprentissage de manière très différente du temps où on avait à notre disposition que la mécanique et la physique. Alors, la première chose que j'emprunte à Gérard Berry, c'est que toute information se numérise. Hein, c'est une idée tout à fait simple. Avant, j'avais mes photos sur argentique, ma musique sur vinyle, que sais-je. Et aujourd'hui, je peux tout approximer à la précision que je veux, avec des 0 et des 1. J'ai la même chose avec les capteurs, la petite image qu'on voit mal ici, c'est toutes sortes de capteurs qui peuvent être mon rythme cardiaque, la température de la pièce, etc. Et donc on a l'impression que tous nos sens humains et toutes les informations que nous captons, nous pouvons les numériser. Il n'y a qu'un seul sens qui échappe à ça. C'est lequel ? Ouais, l'odorat. C'est marrant, hein ? Il y a des équipes INRIA sur l'odorat, et grosso modo, pour des vraies raisons, on ne sait pas faire un capteur d'odeur sophistiqué, j'entends, comme un micro, et on ne sait pas faire un reproducteur d'odeur, ce qui peut avoir certains avantages. Et donc, hormis cette exception, on est vraiment en train de pouvoir traiter l'information en bloc. Alors, c'est le moment où Gérard Berry explique que... je veux bien que quelqu'un donne l'heure. Oh, putain, je suis même à l'heure. Donc, c'est comme ça qu'on peut compresser, traiter l'information. La deuxième rupture, je crois, qu'on peut citer, c'est le fait qu'on peut simuler des systèmes complexes. Alors, regardez mon exemple. Vous payez avec vos impôts des mecs qui passent leur journée à un jeu vidéo qui consiste à planter des graines et faire pousser des arbres pour de faux dans le jeu vidéo. Et en plus, ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi ? Une fois qu'on a cramé nos forêts, avant de savoir si on replante des pins qui poussent plus vite et crament mieux que des chênes, etc., ce que font ces gens-là, c'est qu'en quelques heures de calcul, ils simulent une génération entière d'évolution végétale, et donc ils peuvent fournir des vraies réponses sur ce qu'on peut faire avec une forêt. Je ne détaillerai pas les autres exemples, mais je crois que c'est ça qui va provoquer cette rupture, et... Ça donc amène à une conséquence, c'est qu'on peut pouvoir tout calculer sur l'information. Alors, j'ai choisi cet exemple-là. À chaque fois, c'est parce que des exemples ont fonctionné avec les publics auxquels on explique ça. Et donc, il y a le truc du masque, ça c'est très marrant. On reconstruit le perroquet de manière grave con. Hein. C'est-à-dire que l'algorithme, il se pose qu'une seule question, il croit qu'il y a deux sortes de pixels. Et pour le perroquet, c'est pas faux, il y a la grille et il y a le perroquet, donc il les classe en deux catégories, pourquoi pas. Et ensuite, pour enlever la grille, il remplace un point de la grille par ce qu'il y a à peu près autour. Alors pour le perroquet, c'est bluffant. Maintenant, regardez sur cette image-là, il a complètement écrasé la gueule de la personne parce que l'algorithme, il ne sait pas qu'il y a un œil derrière la lettre. Et donc, vous êtes effectivement devant des mécanismes sophistiqués mais qui n'ont aucune capacité d'aller plus loin que ce que les données leur fournissent. D'accord ? Bien. On va passer là-dessus. Et donc, ça nous amène devant ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Vous êtes devant des résultats de Le Cun, qui est devenu directeur de la recherche à Facebook, et qui fournit en accumulant, ce que vous voyez là-haut, c'est l'accumulation de toutes les briques que je me suis amusé à vous raconter. Et donc, effectivement, aujourd'hui, face à une scène, la machine est capable de poser des labels. Si vous arriviez à lire les trucs, vous verriez route, personne, etc. Et donc, vous êtes devant une machine qui va, à partir d'une image, pouvoir l'étiqueter. Bien, c'est chouette, mais ça reste quelque chose de mécanique, et comprendre ce qui se passe avec ça, c'est effectivement donner les moyens, à partir du collège, peut-être du lycée, que les gens puissent se positionner correctement, de manière critique, disais-tu ce matin, face à ces résultats. L'autre conséquence, je crois que c'est le web sémantique. Vous êtes en train de regarder Rose Dienkun, qui est la collègue française qui est à l'origine du web sémantique. Et donc aujourd'hui, sous Wikipédia, vous allez sur Wikipédia, mais vous êtes des humains, la plupart d'entre nous, et donc on lit des textes. Mais en fait, en dessous, ce texte est traduit sous forme d'un paquet de données. Et ça, c'est très intéressant, des sites comme la BBC, depuis des années, ont des tas de pages sur les plantes, les animaux. En réalité, ils demandent à Wikipédia et ils le retransforment. Donc on a modélisé le sens de nos textes, le sens de nos encyclopédies, de manière telle qu'on peut les réutiliser, évidemment, dans la limite de ce que peut faire une machine. Voilà, et donc j'arrive à ma conclusion, c'est-à-dire qu'en gros, d'après les philosophes, il faut distinguer en fait le calculer et le penser. Ce qui se passe, c'est que on va appeler calculer, surtout depuis Ada Lovelace, la super nana là, que vous voyez là, on va appeler calculer le fait de faire des opérations de calcul sur des chiffres ou aussi sur des symboles. 1 plus 1, ça fait quoi ? 2, super, mais la lettre 1 plus la lettre 1, ça fait... Ouais, ça fait 11. Donc ce qui prouve deux choses, d'abord tu es au moins une personne qui continue de suivre l'exposé, ce dont je te remercie. Et l'autre, c'est qu'effectivement, il n'a pas du tout fait le même calcul, et l'enfant de 8 ans aurait fait pareil, parce que c'est pas le même type de symbole, et ça c'est quelque chose qui est intéressant à caractériser. Donc calculer, c'est tout ce qu'on va faire de systématique, et penser, là par contre, je ne sais pas, j'en ai pas parlé depuis le début, j'ai parlé que de calcul.